Gloire à Dieu. Je vous propose ce matin d'ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre des Rois. Nous allons lire au chapitre 13 et à partir du verset 10. Deuxième livre des Rois, chapitre 13, le verset 10. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joacaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amatsia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « prends un arc et des flèches ». Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main ». Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient » et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire » et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches » et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre » et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination, mais tu les battras 3 fois ». Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joacaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut. Et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joacaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joacaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Amen. Juste au chapitre 14, le verset 15 et 16, qui vont vous paraître une répétition, mais nous le faisons exprès. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amatsia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël, et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amen. Seigneur, comme toujours, nous voulons nous tourner vers toi pour recevoir de toi, par l'action de ton esprit, ce dont nous avons besoin afin de méditer ta parole avec efficacité. Mes frères et sœurs et moi-même, nous sommes ici en ta présence, heureux d'avoir pu célébrer ton nom, te louer, et également nous souvenir de l'immense amour que tu as manifesté sur la croix pour nous. Et maintenant, nous te demandons que tu nous aides à comprendre ta parole, pour que nous puissions les uns et les autres la vivre. Nous avons besoin de toi et nous savons que tu entends notre cri. Aussi, nous te rendons grâce ensemble, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Dans la parole de Dieu, il est très rare que dans deux chapitres seulement, il puisse y avoir la répétition d'un fait et que cela soit mentionné avec exactement les mêmes mots. Il y a donc ici, dans le livre des Rois, l'histoire de cet homme qui s'appelle Joas, qui a été le roi d'Israël. Et dans le premier récit, en ce qui concerne le roi Joas, eh bien, nous voyons décrit ce qui est son caractère général. Et son caractère général, c'est que c'est un homme qui a marché non pas selon la volonté de Dieu, non pas selon les plans de l'Éternel, mais il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Puis, il y a le deuxième récit, où nous le voyons devenir entre les mains du prophète Élisée, malgré ce qu'il est naturellement, un instrument de délivrance, et il va ainsi triompher d'une façon merveilleuse, par la grâce de Dieu, sur l'ennemi de Syrie. Et puis, on voit que la parole de Dieu termine en répétant exactement les mêmes mots concernant ce roi. Mais entre ces deux récits, où d'abord il y a son caractère général, et puis ensuite, dans le deuxième récit, cette victoire qu'il a pu remporter par la grâce de Dieu, alors est intervenu un fait que nous avons besoin de souligner. Et ce fait, c'est la mort d'Élisée qui a permis, par cette grâce qui était le partage d'Élisée, de devenir pour Joas un moyen de bénédiction. Et dans ce sens, je dirais qu'Élisée est un type de Jésus-Christ, parce que c'est par le moyen de sa mort, mais aussi pour lui de sa résurrection, que nous avons pu être changés, nous avons pu être transformés, et que nous pouvons devenir, dans la mesure où nous nous abandonnons et nous livrons entre les mains du Seigneur, eh bien, des instruments de délivrance, des instruments de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Alors, maintenant, je vais mettre en relief ce qui a caractérisé le peuple d'Israël dans une période qui était particulièrement sombre. Personne, certainement, au milieu de nous n'ignore que, à l'époque de Salomon, et à cause, bien entendu, de la disposition de ce cœur qui était le sien, au départ très favorable, et je dirais qui a attiré la bénédiction de Dieu sur sa vie, mais à la fin, de par sa désobéissance, de par le fait aussi qui, comme vous le savez, il avait pris de nombreuses femmes et que ces nombreuses femmes ont attiré son cœur vers des dieux étrangers, il y a eu un jugement de l'Éternel qui s'est exercé. Et le jugement qui s'est exercé a provoqué une division au milieu du peuple d'Israël. D'un côté, il y avait 10 tribus qui sont appelées les tribus d'Israël, le royaume d'Israël, et puis de notre côté, deux tribus qui sont appelées le royaume de Juda. Le royaume de Juda est resté fidèle à la maison de David. Et nous savons tous que Dieu avait fait une promesse à David en disant qu'il lui accorderait toujours un descendant sur son trône. Mais de notre côté, dans la maison d'Israël, il y a eu une succession de rois qui tous ont été dans une vision différente de ce que Dieu aurait voulu. Il y a eu la désobéissance, il y a eu le péché, il y a eu des choses qui ont été acceptées, comme l'idolâtrie. Et si nous nous posons la question de savoir pour quelle raison il en est ainsi, la réponse se trouve dans le fait que celui qui était à l'origine de cette division et qui s'appelle Jéroboam, pour empêcher que le peuple sur lequel il régnait et qui était très nombreux puisse retourner sous la coupe de ses descendants du roi de David, avait fait une religion à part et il avait établi des lieux hauts pour servir soi-disant l'Éternel, mais il avait placé dans ces hauts lieux des veaux d'or et le peuple se dirigeait vers ces veaux d'or et il y avait aussi quelque chose de terrible qu'il avait accompli, c'est qu'il avait mis en place des serviteurs, je dirais des sacrificateurs qui ne sortaient pas de la lignée d'Aaron. Il avait en quelque sorte établi une religion selon sa pensée, mais qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. En quelque sorte, les véritables adorateurs se trouvaient à Jérusalem, du côté donc de ce royaume de Juda, tandis que les autres, eh bien, se livraient à l'idolâtrie et étaient en contradiction avec la volonté de Dieu. Alors, l'Éternel est entré en jugement encore une fois. Et d'ailleurs, il avait dit par la bouche d'Élie qu'un jugement serait exercé sur le peuple et est venu un instrument de Dieu qui s'appelle Jéhu, qui avait un zèle particulier, et Jéhu a manifesté par son zèle l'amour qu'il avait aussi pour Dieu, et il a rétabli un certain ordre, mais il n'a pas tout accompli, et par la bouche de ce prophète qui s'appelle Élie, il avait été dit ce que la main de Jéhu ne pourra pas accomplir, la main d'Élisée le réalisera. Et justement, jusque-là, au moment où nous avons lu la parole de Dieu et les circonstances qui sont décrites dans le texte que nous avons choisi, cette parole du prophète Élie ne s'était pas encore accomplie. Et je voudrais mettre en relief une chose. C'est que entre ces deux hommes, Élie et Élisée, il y a une différence. La différence, c'est que Élie peut être présenté comme le prophète du jugement, tandis qu'Élisée est présenté comme le prophète de la grâce. Et il a toujours agi avec la grâce, si bien même que, même pour exécuter la parole qui avait été prononcée à son sujet, ce n'est même pas lui qui va l'accomplir, mais c'est une mission qu'il confie à quelqu'un d'autre, tellement il est dans cette vision de la grâce, il va permettre à un roi qui pourtant ne marche pas selon les plans de Dieu d'accomplir ce que Dieu avait annoncé. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu de grâce. Et dès qu'il voit un cœur qui est capable de se plier devant lui, de reconnaître ses erreurs, de reconnaître ses turpitudes, alors Dieu vient à son secours et malgré ce qu'il a pu être dans le passé, Dieu l'utilise comme un canal de bénédiction, un moyen de bénédiction. Et c'est ce qui va arriver à Joas, duquel nous allons nous entretenir maintenant ensemble. Joas, je l'ai donc dit, était le roi d'Israël. Il a agi non pas d'une manière conforme à la volonté de Dieu, mais à un moment donné, arrive cette circonstance un peu particulière qui est décrite par ce verset 14 où il est dit « Élisée était atteint de la maladie dont il mourut ». Je profite de l'occasion pour vous dire, vous voyez, on peut être un saint homme de Dieu, et ça a été le partage d'Élisée, et pour autant connaître aussi cette forme de souffrance qu'est la maladie. J'ouvre simplement une parenthèse que je vais bien vite refermer. Il est arrivé à certains chrétiens d'annoncer et de dire que lorsqu'on marche avec le Seigneur et que l'on est fidèle à Dieu, alors on ne peut pas être atteint par la maladie. Bien, ce verset vient contredire ce que nous pourrions imaginer dans ce sens-là. Et il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui mettent en relief que l'on peut être fidèle à Dieu, servir Dieu de tout son cœur, avoir marché selon sa volonté, être un chrétien authentique et pour autant connaître une certaine souffrance sur le plan physique. Dieu est capable de guérir d'une manière spectaculaire et d'autres fois, il ne le fait pas, mais il accorde sa grâce pour que nous puissions, dans l'épreuve, se maintenir dans la victoire et dans la joie, parce que le Seigneur n'a jamais promis que nous ne serions jamais malades, que nous ne serions jamais dans l'affliction dans ce domaine-là. Mais dans l'épreuve, il est toujours avec nous. Et Élisée, atteint donc de cette maladie dont il va mourir, c'est un fait certain, voit s'approcher le roi Joas. Cet homme dont le cœur n'est pas tout à fait, je le répète exprès, selon la volonté de Dieu. Mais Joas réalise que si Élisée meurt, alors il y a une grande perte pour Israël. Et quand il vient vers lui, il vient avec cette parole qui s'était trouvée dans la bouche d'Élisée au moment où Élie est monté au ciel. Et voyez-vous, il s'exprime en ces termes, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Au travers de cette expression, ce roi est en train de dire, « si Élisée disparaît, c'est comme si nous perdions l'armée d'Israël. » Tellement, dans le fond, malgré ce qu'il était, il reconnaissait que cet homme de Dieu était un instrument particulier entre les mains de l'Éternel. Et quand Élisée a entendu cet homme s'adresser à lui de cette manière-là, alors il lui a donné un ordre. Et il faut que nous soyons bien attentifs à ce qu'il lui a demandé de faire. Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches » et il prit un arc et des flèches. Je m'arrête là un instant. Dans le psaume 18 et au verset 35, il est dit ceci « L'Éternel exerce mes mains au combat et il tend entre mes mains l'arc des reins. » Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons une arme particulière entre nos mains. Et je dirais, l'arc en question, pour moi, c'est la vie de prière. La prière est le moyen par lequel nous pouvons atteindre l'ennemi de nos âmes et le vaincre. Regardez la différence qui existe entre le combat que nous pouvons mener avec l'épée à la main. L'épée, tout le monde le reconnaît, puis c'est l'enseignement de l'Écriture. L'épée, c'est le symbole de la parole de Dieu, appelée d'ailleurs dans les Épîtres l'épée de l'Esprit. Mais avec une épée, je suis obligé de faire du corps à corps. Mais avec un arc, je n'ai pas besoin d'attendre que l'ennemi soit juste à ma portée. Je peux l'atteindre alors qu'il est encore à une certaine distance. C'est la raison pour laquelle l'arc est à la fois le symbole de la prière, mais aussi d'un certain discernement. Parce que sans discernement, eh bien, le peuple peut être en danger. Mais quand il y a un certain discernement, alors il va utiliser la prière. Et par le moyen de la prière, il va pouvoir décocher la flèche avant que l'ennemi fonde sur lui. Et il est vrai que l'ennemi aussi est capable de décocher des flèches, puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'à notre disposition se trouve aussi un bouclier, le bouclier de la foi, par lequel nous pouvons éteindre les traits enflammés de notre adversaire. Mais nous savons en même temps que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Donc nous pouvons tendre l'arc des reins et nous avons une flèche à délivrer, à décocher, et cette flèche-là, elle porte un nom particulier. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49 et au verset 2, qu'il est parlé du Messie, de loin de l'Éternel. Et vous pourrez le découvrir dans la parole du Seigneur, dans la référence que je viens de citer. Et le Messie, loin de l'Éternel, parle en ces termes. Et il dit, « Tu as fait de moi une flèche aiguë. » J'ai le privilège de pouvoir lire aussi la Bible dans une autre langue, l'espagnol, qui est ma langue d'origine. Et voyez-vous, dans la Bible en espagnol, sans absolument changer le sens du texte original, il est ajouté simplement ceci, « une flèche reluisante ». Et la flèche reluisante, pourquoi? Parce que, d'une manière générale, les combattants qui utilisent les flèches vont prendre soin d'elles en utilisant peut-être des instruments pour enlever toute forme de rouille, tout ce qui pourrait, en quelque sorte, empêcher la flèche de pénétrer avec efficacité dans l'air. Et tout ce qui pourrait la dévier pour qu'elle n'atteigne pas le but doit être enlevé. C'est pourquoi on l'appelle flèche reluisante en espagnol. Et ici, dans notre texte en français, il est dit flèche aiguë. C'est une flèche qui atteint toujours le but. Et la flèche qui atteint toujours le but, c'est Jésus-Christ. Jésus a toujours atteint le but et il attendra et il atteindra toujours. C'est pourquoi quand nous prions en quel nom? Nous prions au nom de Jésus. Ce n'est pas en notre nom ni au nom de nos mérites personnels. Mais Jésus lui-même a dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Donc vous voyez mes frères et sœurs, nous avons à notre disposition une arme qui est sûre. Quand nous invoquons le nom de Jésus en face de l'adversité, en face de la puissance des ténèbres, en face des circonstances qui peuvent être tout à fait contraires à ce que nous souhaitons, eh bien, le Seigneur alors entre en action pour atteindre le but. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué ce qu'il est dit ici? Élisée dit à cet homme, prends un arc, prends des flèches, et il met ses mains sur les mains du roi, il le couvre en quelque sorte de sa personne, C'est un peu comme s'il le revêtait de son autorité, et cet homme, revêtu ainsi de l'autorité de ce prophète, il va pouvoir décocher la flèche, et le prophète va dire, ça, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Et à ce moment-là, le prophète change d'attitude, et il lui dit, maintenant, continue. Et il lui dit, prends des flèches et tire à tes pieds. Je me suis souvent posé la question, pourquoi il lui a demandé de tirer des flèches à ses pieds, sur le sol même où il avait posé ses pieds? Et le Nouveau Testament nous éclaire. Au chapitre 16 de l'Épître de Paul aux Romains et au verset 20, écoutez ce qu'il est dit. C'est Paul qui parle, il s'adresse à l'Église et il dit « Bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. » C'est-à-dire que notre Dieu, il a tout fait par Jésus-Christ son Fils afin que Satan soit écrasé sous nos pieds. Il revendique son pouvoir encore, et encore il continue à nous faire croire que tout pouvoir lui a été donné. Mais je vais vous dire, Satan est fort, il est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Et nous ne devons pas oublier cela. Il a certainement une puissance qui est plus grande que la nôtre. Mais la puissance de Dieu est plus grande que la sienne. Je profite de l'occasion ici pour vous dire que la Bible nous compare quelquefois à ce petit animal qui s'appelle le daman. Et le daman est un animal qui n'est pas plus gros qu'un lièvre et il se trouve dans des régions où il y a des bêtes féroces. Et comme il n'a pas beaucoup de moyens de défense, eh bien, il a trouvé un refuge dans le rocher. Et maintenant, nous imaginons la scène suivante. Le daman se trouve en danger parce que le lion est là, il est prêt à le saisir, mais d'un seul coup, il rentre dans le creux du rocher et moi, je vais lui prêter la parole. Écoutez le petit daman. Il dit, « Lion, tu es plus fort que moi, mais le rocher, il est plus fort que toi. » Et nous, si nous sommes cachés en Christ, nous avons ce privilège de dire à l'ennemi de notre âme, « Tu es plus fort que moi, mais celui qui t'a vaincu a déjà prouvé qu'il est plus fort que toi. Je n'ai rien à craindre parce que tu es un ennemi vaincu. » C'est ça qu'a proclamé Élisée en disant à ce roi, et roi peu considérable dans le domaine de la foi, mais il lui a dit, tu viens de lancer une flèche de délivrance, continue maintenant, prouve que tu crois en la souveraineté de Dieu. Alors mes frères et sœurs, n'oublions pas une chose, que nous soyons convaincus de la souveraineté de Dieu, c'est bien, que nous sachions que tout pouvoir lui a été donné, c'est bien. Mais cela n'enlève absolument rien à notre propre responsabilité. C'est la raison pour laquelle, après avoir couvert le roi de sa personne et lui avoir dit « Tu viens de lancer une flèche de délivrance », maintenant il le livre à lui-même pour savoir si ce qu'il vient d'entendre et si ce qu'il vient de faire a un impact sur sa vie. Voyons un peu. Si tu as compris le message, et il tire trois flèches et il s'arrête. Et le prophète se met en colère. Et il dit, c'est dommage, parce que tu es l'instrument par lequel, eh bien, le jugement de Dieu va s'exercer sur le roi de Syrie. Mais malheureusement, tu ne vaincras que trois fois les Syriens, alors que si tu avais continué, tu les aurais définitivement réduits au silence. Et là, C'est une leçon que nous devons retenir. Mes frères et sœurs, nous avons à notre disposition les plus belles et les plus grandes et les plus merveilleuses promesses qui nous sont accordées à cause de la grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et pour ne pas risquer de dire des choses qui sortent du cadre de la parole de Dieu, je vous cite ce verset. Comme sa divine puissance, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, c'est ce que Dieu nous réserve en Christ. Écoutez la suite. À cause de cela, dit Pierre, faites tous vos efforts. Dieu a fait un travail. Dieu a accompli parfaitement son œuvre. Tous ici ce matin, nous avons loué le Seigneur pour sa grâce, pour son salut, pour le pardon de nos péchés. Tous, nous avons honoré notre Maître pour ce qu'il a accompli en notre faveur. Lui a fait ce qui devait être accompli. Mais écoutez la suite. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. C'est-à-dire que Dieu a mis un but devant nos yeux, et pour la énième fois, je rappelle ici que le but de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons rendus semblables à son Fils bien-aimé. Et pour ce faire, il a tout accompli pour que nous recevions le secours du Saint-Esprit, mais il ne fera jamais rien sans notre volonté. Parce que Dieu ne s'impose pas à nous comme si nous étions des robots. Il nous révèle ce qu'il a fait, et puis maintenant, il dit, allez, tire des flèches. Nous pouvons dire que nous avons la foi, mais voyez-vous, ce n'est pas suffisant si j'en crois le verset que je viens de lire. À la foi, il faut ajouter la vertu, ce qui veut dire le courage. Au courage, il faut ajouter la science, ce qui veut dire la connaissance. À la connaissance, il faut la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Tiens, juste, en ce qui concerne cette dernière expression, avez-vous remarqué qu'il y a une différence entre l'amour fraternel et la charité? L'amour fraternel, c'est quoi? C'est les liens qui peuvent nous unir les uns aux autres. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il y a ces liens d'unité qui peuvent nous rassembler les uns aux autres. Mais vous savez, je dois dire que les liens fraternels ne sont pas suffisants dans l'Église de Jésus-Christ. Pour la simple raison que, pardon de vous dire cela, et si vous en êtes choqué, vous pouvez m'en faire part par la suite. Mais je voudrais vous dire qu'il y a des clubs mondains dans lesquels il y a une entente fraternelle et amicale qui est des fois supérieure à celle que l'on peut trouver dans une église. Et c'est le lien fraternel n'est pas suffisant. Il est une bonne chose, mais à l'amour fraternel, il faut ajouter la charité, direz-vous. Et c'est quoi la charité? La charité, c'est l'amour appelé agapé. C'est cet amour divin. Dieu nous aime malgré ce que nous sommes. Et il m'a aimé alors que moi, j'étais un ennemi. Moi, j'étais loin. Et l'amour de Dieu, il n'est pas seulement manifesté en ce que, alors que j'étais loin, un ennemi, eh bien Dieu s'est révélé à mon cœur, mais il continue à se manifester de la manière suivante. L'amour de Dieu est capable de me dire certaines choses qui vont me faire mal, mais non pas pour me détruire, mais pour me construire. C'est-à-dire pour faire de moi ce que Dieu veut que je sois. Et l'amour de Dieu, je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, ce n'est pas la mièvrerie, ce n'est pas le fait de caresser les autres dans le sens du poil, mais c'est de pouvoir dire les choses qui amèneront quelqu'un à ressembler davantage au Seigneur. Et il est évident que celui qui exhorte dans ce domaine-là doit lui-même, eh bien, être sous le contrôle de l'Esprit pour enlever de son œil la poutre afin qu'il puisse ensuite enlever la paille qui se trouve dans l'œil de son frère. Vous comprenez la différence? Et tout ça, eh bien, c'est Dieu seul qui peut le faire. Mais à une condition, c'est que nous le cherchions. Voilà, notre volonté sanctifiée, notre volonté régénérée, elle va aller dans le sens de la recherche de ce que Dieu veut. Si je ne recherche pas ce que Dieu veut, ça veut dire tout simplement que je ne suis pas régénéré. Mais quand je suis régénéré, ma volonté l'étant aussi, alors je vais chercher ce que Dieu veut. Et ça va aller dans cette direction-là pour que je triomphe de l'ennemi et que de plus en plus la gloire du Seigneur soit manifestée dans ma vie. Alors je poursuis. Ceci a été un reproche pour cet homme qui, n'ayant pas bien compris le message, eh bien, s'est arrêté trop tôt, et il est dit ensuite, eh bien, qu'Élisée mourut, et une fois qu'il est mort, alors, là, on va voir comment les choses vont se passer, et si la leçon a été bien comprise. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 3, 5 ou 6 fois, alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination, maintenant tu les battras 3 fois. Élisée meurt, et puis il se passe quelque chose. La Bible dit qu'il y avait des incursions en Israël par des troupes moabites. Je voudrais vous rappeler, bien que vous le sachiez, j'en suis convaincu, que les moabites ont une origine. Et l'origine de Moab, c'est l'ivresse de la chair, l'excitation de la chair. Vous connaissez l'histoire de Lot, et vous savez ce qui lui est arrivé, le jugement qui a eu lieu. Il est resté seul avec ses 2 filles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des choses, conséquences de l'ivresse, provoquées par ces 2 filles-là, et l'une a donné naissance à Ammon, l'autre a donné naissance à Moab. Et ces 2 peuples-là ont toujours été opposés à la vie d'Israël. Toujours opposés. Et moi, je vois en Moab, eh bien, ce qui n'est qu'une imitation de la vie de l'Esprit. Alors ici, je voudrais que vous soyez bien attentifs, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose qui se passe à l'heure actuelle, et nous en sommes tous témoins. Malheureusement, il y a une sorte de dégradation sur le plan spirituel. Pardon, ce n'est pas un jugement, c'est juste une constatation qui devrait nous amener à réfléchir et à prier le Seigneur. Où sont les dons authentiques qui ont une efficacité au milieu du peuple de Dieu? Où sont-ils? quand je lis l'épître de Paul aux Corinthiens, je m'aperçois que les dons spirituels avaient une place au sein de l'Église. Et il est clairement dit que les dons spirituels sont pour l'exhortation de l'Église, l'édification de l'Église. Mais il y a eu comme une sorte de déviation. D'abord, maintenant, à l'heure actuelle, voilà ce qui se passe et les deux extrêmes que l'on peut constater. Un étouffement de la vie de l'esprit. On n'entend plus ce qui vient de la part de Dieu. Et petit à petit, on est en train de devenir une religion, un système religieux, sans la manifestation de la vie d'en haut. Et je voudrais bien souligner que s'il n'y a plus l'action de l'Esprit de Dieu pour appliquer la parole à nos cœurs, et puis en même temps dévoiler certaines choses qui se cachent dans les replis du cœur, alors à ce moment-là, on va devenir ce système religieux où l'on dit toujours presque les mêmes choses, avec une bouche remplie de louanges, mais qui sont toujours les mêmes mots, sans que ce soit l'expression d'un cœur qui brûle pour Dieu, un cœur qui soit vraiment en relation étroite avec Dieu. Et c'est triste quand une église en arrive là. Mais de l'autre côté, eh bien, il y a ce que j'appelle les Moabites. C'est-à-dire ceux qui sont poussés à vouloir à tout prix les dons spirituels. Et à ce moment-là, alors, on en arrive à des extravagances. D'ailleurs, il y a même un mouvement qui s'appelle comme cela, extravagance. C'est-à-dire des choses qui sont vraiment inconsidérées, déséquilibrées, qui n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu annonce. Vous savez, comme moi d'ailleurs, que l'ennemi de notre âme agit de ces deux manières différentes. Ou il nous retient, il nous empêche d'aller dans le sens que Dieu veut, et il a toutes sortes de moyens pour essayer de nous empêcher d'aller dans cette direction-là, et s'il voit qu'il ne peut pas nous empêcher, alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse, mais il nous pousse dans l'autre extrême. Et vous voyez, en Christ, les choses sont tout à fait différentes. En Christ, il y a une vie réelle. En Christ, il y a un enthousiasme réel. En Christ, il y a tout ce dont nous avons besoin pour que tout ce qui entre dans ce lieu et qui n'appartiennent pas à Dieu puisse avoir leur vie révélée et qu'ils puissent avoir la révélation aussi de qui est Dieu, de ce grand Seigneur que nous servons. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous dire, il y a des incursions de Moabites qui font également beaucoup de mal à l'Église dans son ensemble. Je ne suis pas en train de parler de l'Église locale, mais de l'Église dans son ensemble, beaucoup de mal. Parce qu'aujourd'hui, ce sur quoi on met l'accent, c'est sur toutes les choses déséquilibrées que nos pères pourtant n'ont pas connues. J'ai connu ces hommes de Dieu au commencement de ce mouvement de l'esprit en France, quelques-uns, eh bien, j'ai eu la possibilité de les fréquenter, et je me souviens encore avec une grande reconnaissance de cette onction qui pouvait reposer sur eux, qu'ils communiquaient au peuple, et de ce qui se passait au milieu du peuple, lorsque les dons spirituels étaient exercés, lorsque des guérisons étaient manifestes, lorsque des choses étonnantes pouvaient se produire. J'ai entendu, en visitant quelques-uns d'entre vous, parmi les plus anciens, des choses qui m'ont fait du bien en me rendant compte de ce qui a pu se produire dans leur vie en un temps passé. Et je les voyais, quelques-uns d'entre eux, avec une grande reconnaissance en disant « Mais ce temps-là, c'était tellement bon pour nous. » Écoutez bien, il ne s'agit pas de nostalgie du passé, parce que ce n'est certainement pas selon la volonté de Dieu que nous vivions dans la nostalgie du passé. Mais c'est dans la volonté de Dieu que nous n'oublions pas que notre Dieu ne change pas, que notre Dieu est toujours le même, et que ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Cependant, nous avons besoin de sortir de nous-mêmes. Et là, il y a quelque chose qui s'est produit. Moi, je trouve là très intéressant. Alors qu'il y a eu une invasion d'une troupe moabite, juste à un moment très défavorable, c'était un moment où en Israël il y avait un deuil, une famille était dans la souffrance, ils venaient de perdre un être cher, ils transportaient ce corps pour le mettre en terre, mais comme les Moabites sont arrivés, ils ont eu peur, et dans leur précipitation, ils ont fait quelque chose d'inouï. Ils ont passé juste à côté du sépulcre d'Élisée, et vous savez, à ce moment-là, on ne mettait qu'une sorte de pierre facile à rouler. Il n'y avait pas de cercueil comme nous l'avons aujourd'hui. C'était une sorte de linceul qui pouvait couvrir le corps. Et ils ont pris leur mort et ils l'ont jeté comme cela sur le corps d'Élisée. Quand il est entré en contact avec le corps d'Élisée mort, eh bien, il a fait un bond, il est sorti de la tombe. Moi, j'imagine un petit peu la peur qu'ils ont dû avoir, les autres, en voyant, n'est-ce pas, cet être qui sortait du tombeau et qui, comme ça, a commencé à les suivre. Mais quel miracle extraordinaire! Vous savez, mes frères et sœurs, je voudrais vous parler en illustrant cela. Nous pouvons très facilement mettre en terre certaines choses. Il y a des maîtres dans l'art d'ensevelir. Et on dit toujours, ah pour lui, il n'y a plus rien à faire. Pour elle, c'est trop tard. Pour un tel, c'est fini. Pour l'Église, bah, on ne reviendra pas. Vous voyez, mes frères et sœurs, ça, c'est l'ensevelissement, l'enterrement. C'est être négatif. C'est vivre en ne comprenant pas que Dieu est tout-puissant. Et que lui, il n'a pas changé. Et je pourrais citer ce que le prophète Ésaïe lui-même a cité. Son bras n'est pas trop court pour nous secourir. Sa main n'est pas trop faible. Mais ce qui l'empêche d'agir, ce sont nos péchés. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous remettre en question. Et au lieu d'ensevelir et de dire c'est trop tard, c'est fini, pour un tel, pour notre tel, pour mes enfants, pour telle circonstance que je suis en train de traverser, c'est trop dur, on n'y arrivera jamais, jamais. Non, non et non. Mes frères et sœurs, le Dieu que nous servons, il n'a pas changé. Il est capable de secourir, il est capable de sauver, il est capable de délivrer, il est capable de guérir, il est capable encore de régénérer des hommes et des femmes. Nous avons perdu beaucoup de vision et c'est pourquoi il nous faut retrouver cette relation avec Dieu pour restaurer dans l'Église tout ce qui pourra aider les autres à entrer en contact avec celui que nous servons et que nous aimons. Dieu est le Dieu de la délivrance, il est le ressuscité et il est le Dieu de la résurrection. La différence entre Élisée et Jésus, c'est qu'Élisée n'avait pas en lui le pouvoir de revenir à la vie. C'est la raison pour laquelle, quand même, c'est en contact avec son corps mort, illustration de ce qui se passe lorsque nous pouvons mettre quelqu'un directement en relation avec le divin crucifié. Je comprends pourquoi Paul parlait en ces termes. Quand il prêchait, il disait « Je ne veux savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a remplacé la croix par le spectacle, on a remplacé la croix par autre chose, ce n'est pas votre cas. Mais voilà la raison pour laquelle aussi, au milieu du peuple de Dieu, il y a eu tellement, tellement de dégénérescence. Mais je crois que le Seigneur est capable de redonner la vie. Est-ce que vous le croyez? Alors il va falloir reprendre. Dans la vie de prière personnelle, la remise en cause devant le Seigneur, même si tu as atteint un niveau très élevé avec le Seigneur, eh bien, cherchons encore notre Maître, cherchons le Seigneur, et il va nous montrer comment on va pouvoir triompher, et les choses que l'on enterre si facilement, eh bien, le remettre entre les mains de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que dit la parole du Seigneur, hein. De remettre tous nos fardeaux et toutes ces choses-là entre les mains du Dieu vivant et vrai. Je continue. Il n'y avait pas seulement que la troupe des Moabites, il y avait encore les Syriens qui étaient à l'œuvre. Et oui, il y avait Hazaël, roi de Syrie, qui mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Hazaël, quelle triste histoire! Ah, c'est la dernière partie de mon message, mais je voudrais m'arrêter un instant à considérer ce qui est arrivé à Hazaël. Hazaël, qui était au service du roi Ben-Hadad, c'est curieux parce que Ben-Hadad était son maître, et puis Ben-Hadad a été aussi ensuite un fils de Hazaël. Mais Hazaël, quand il était au service du roi Ben-Hadad de Syrie, il a eu une mission confiée par son maître. Son maître est tombé malade et il a dit à son serviteur, « Va trouver le prophète Élisée » parce qu'il avait appris qu'Élisée passait dans sa ville. Alors, chargé d'une mission, Hazaël est parti. Le maître lui avait dit, « Demande-lui si je guérirai de ma maladie. » Hazaël est parti et croyez-le, je pense que son cœur était sincère. Il est parti avec le désir d'accomplir la mission que son maître lui avait demandé de réaliser. Et quand il arrive auprès d'Élisée, il lui dit, voilà, je viens de la part de mon maître, il est malade. Et il pose la question, va-t-il guérir de cette maladie? Élisée le regarde et lui dit, oui. Tu pourras lui dire, il va guérir. Cependant, ça c'est paradoxal, cependant il va mourir. Puis Élisée s'arrête, puis le regarde droit dans les yeux, il a regardé longuement, nous dit l'Écriture, et au bout d'un moment, voyez le discernement et la révélation, il s'est mis à pleurer. Élisée pleurait, pleurait. Et Hazaël lui a dit, mais pourquoi? Pourquoi pleures-tu de cette manière-là? Et Élisée lui dit, parce que je sais tout le mal que tu vas faire à mon peuple. Tu vas ouvrir le sein maternel pour arracher l'enfant du sein maternel. Tu vas détruire les villes en Israël. Tu vas écraser mon peuple. Et l'autre lui dit, mais qui est ton serviteur, ce chien mort, pour accomplir de si grandes choses? Est-ce que vous croyez qu'il était sincère? Oui. Je vais vous dire, personne ne connaît vraiment le fond de son cœur comme Dieu le connaît. Personne. Pierre a dit à son Seigneur, « Seigneur, quand bien même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Croyez-vous qu'il était sincère? Moi, je le crois. Moi, je le crois. Mais Jésus lui a dit, avant même que le coq ne chante deux fois, toi, tu m'auras renié trois fois. Et Pierre ne pouvait pas le croire. Sauf que nous, nous savons ce qui est arrivé. Mais comment Dieu a exercé sa grâce à son égard pour faire de lui, malgré ce qu'il était par nature, un homme de Dieu extraordinaire, un homme de Dieu remarquable. Ici, on voit Hazaël quand il a déjà accompli tout ce qu'Élisée lui avait annoncé. Tout cela, on le voit maintenant, il est là, mais Joas, qui a été béni par Élisée, qui malgré son indignité a pu devenir entre les mains de Dieu un instrument de délivrance, va exercer le jugement de Dieu contre Hazaël. Et il est dit, Joas, fils de Joachas, repris des mains de Ben-Hadad, qui était le fils d'Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachas, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Mes frères et sœurs, c'est ici que ça devient très intéressant. La chair, elle a malheureusement pris le dessus sur certaines choses. Nous aussi, nous sommes en guerre. La Bible parle des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Et il y a beaucoup de choses que par ce moyen, l'ennemi a réussi à prendre. Peut-être y a-t-il un frère parmi nous qui n'a plus la joie qu'il avait au commencement de sa marche avec le Seigneur. Peut-être une sœur parmi nous qui n'a plus non plus cette paix, ni non plus cette liberté, cet enthousiasme, non pas superficiel, mais qui devrait être le partage de nous tous, parce que nous sommes la famille de Dieu, et rien n'est plus beau que de faire partie de la famille de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe pour que tu ne puisses plus ouvrir la bouche librement, comme autrefois tu le faisais? Pourquoi n'y a-t-il plus dans ton cœur la soif d'être entre les mains du Seigneur comme un instrument utilisé pour exercer un don spirituel? Pourquoi comptes-tu toujours sur les mêmes? Et d'ailleurs, je m'adresse à ces mêmes pour dire attention, car les dons spirituels ne se pratiquent pas toujours de la même façon, ni toujours systématiquement, avec simplement des mots humains qui n'ont pas la force ni l'impact que l'Esprit de Dieu peut produire. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Nous avons besoin de retrouver la véritable onction. Et Dieu peut le faire. C'est la raison pour laquelle ici, il nous parle au travers de cette expérience. Mes frères et sœurs, si Joas, ce mauvais roi, à 3 reprises, malheureusement parce qu'il n'avait pas compris tout le message de Dieu, a repris les villes que l'ennemi avait réussi à subtiliser à ce peuple d'Israël, notre Dieu, par Jésus-Christ, peut nous aider à reprendre tout ce qu'il nous a volé, le diable. Car, c'est vrai, la Bible dit c'est un voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et nous le constatons dans nos vies personnelles. Ne voyez pas ici allusion à des êtres humains. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, de condamnation à ce niveau-là. Je parle pour chacun d'entre nous, je parle même pour moi, car mes frères et sœurs, avant que je vous porte ce message, moi aussi je l'ai reçu dans mon cœur. Moi aussi j'ai besoin de ça. Et nous avons besoin de demander à Dieu, réveille-nous. Mais à cet appel du prophète qui disait, réveille-toi, bras de l'Éternel, réveille-toi, bras de l'Éternel. L'Éternel a répondu en disant, réveille-toi, toi. Nous avons besoin de réagir. Notre volonté doit être au service de Dieu. Il faut que nous disions, fini, nous n'acceptons plus le joug de l'ennemi, nous n'acceptons plus que pèsent sur nous les pensées négatives, nous n'acceptons plus que le passé est une influence dans notre vie, dans le sens négatif. Dans le passé, il y a des bonnes choses, Mais ce qui est négatif, nous devons définitivement le mettre sous nos pieds et proclamer la grande victoire du Seigneur en nous consacrant davantage à lui. Que Dieu nous aide les uns et les autres à accomplir cela et que Dieu nous bénisse. Seigneur, viens-nous en aide. Merci pour la fidélité qui est la tienne. Seigneur, je réalise que bien des choses nous ont été ravies par l'ennemi de notre âme. Mais Seigneur, je crois que tu es le Dieu merveilleux, puissant, plein d'amour et de miséricorde, qui n'a pas dit son dernier mot. Et je veux ici, avec mes frères et sœurs, dire gloire à toi, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Gloire à toi pour ta grande victoire. Et parce que justement tu as vaincu, nous voulons saisir cette occasion pour, en même temps que nous proclamons ta victoire, proclamer qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu es celui qui accomplit ta parole en faveur de tous ceux qui se confient en toi. Permets que nous puissions serrer précieusement ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi et aide-nous à avancer toujours plus loin par ta grâce dans le nom précieux de Jésus. Amen.